Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, l'ONU s'inquiète de l'annonce de la reprise des essais nucléaires par la Corée du Nord. L'ONU lance une nouvelle conversation mondiale sur l'avenir de la planète pour son 75e anniversaire. Et en dossier, coup de projecteur sur l'impunité dont bénéficient ceux qui portent atteinte aux droits fondamentaux des défenseurs des droits de l'homme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé mercredi par la déclaration de la Corée du Nord qui annonçait la fin d'un moratoire sur les essais nucléaires et de missiles balistiques qu'elle observait. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Le secrétaire général espère vivement que les essais ne reprendront pas, a dit le porte-parole d'Antonio Guterres dans une déclaration à la presse. Le chef de l'ONU rappelle que la non-prolifération reste un pilier fondamental de la sécurité nucléaire mondiale et doit être préservée. Antonio Guterres a exprimé à nouveau son soutien à la reprise d'un dialogue qui conduirait à une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne. L'engagement diplomatique est la seule voie vers une paix durable, a dit son porte-parole. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé mardi 31 décembre la fin d'un moratoire faute de reprise des négociations avec les États-Unis. Il a affirmé que le monde allait découvrir dans un proche avenir une nouvelle arme stratégique que détient la Corée du Nord. Mi-décembre, un haut responsable des Nations Unies avait appelé la Corée du Nord et les États-Unis à reprendre leur pourparlers, regrettant des développements troublants ces derniers mois en Corée du Nord. En juin 2019, le président américain Donald Trump et Kim Jong-un s'étaient rencontrés dans la zone démilitarisée qui sert de frontière entre les deux Corées. Cette rencontre n'avait toutefois pas permis la reprise des pourparlers qui sont dans l'impasse depuis l'échec d'un sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019.
Les Nations Unies ont démarré l'année en lançant l'initiative UN 75. Il s'agit d'une conversation mondiale sur le rôle de la coopération internationale dans la construction de l'avenir que nous voulons. Un débat pour marquer les 75 ans de l'organisation qui doit avoir lieu à travers le globe et auquel tous peuvent participer en personne ou en ligne sans limite ni restriction. Nous avons besoin de votre opinion, de vos stratégies et de vos idées pour que nous puissions mieux servir les peuples du monde que nous devons servir, a souligné le secrétaire général en appelant à participer au dialogue, un message qu'Antonio Guterres a également transmis aux jeunes dans ses vœux pour l'année 2020.
Je me joins à vous depuis l'Organisation des Nations Unies pour célébrer cette nouvelle année 2020. Elle s'ouvre sur fond d'incertitude et d'insécurité. Les inégalités persistent, la haine se propage, les conflits prolifèrent, la planète se réchauffe. Le changement climatique n'est pas seulement un problème de long terme, mais un danger évident et immédiat. Nous ne pouvons pas être la génération qui se tournait les pouces pendant que la planète brûlait. Mais il existe aussi des raisons d'espérer. Cette année, mes vœux pour la nouvelle année s'adressent à notre plus grande source d'espoir, les jeunes du monde entier. Climat, égalité des sexes, justice sociale, droits humains, votre génération est en première ligne et en première page. Votre ferveur et votre détermination sont pour moi une source d'inspiration. Vous réclamez un rôle qui vous revient de droit dans la construction de notre avenir et je suis à vos côtés. L'ONU est à vos côtés. Et l'ONU est à vous. En 2020, l'organisation fêtera ses 75 ans. Nous lançons la décennie d'action en faveur des objectifs de développement durable, notre plan de marche vers une mondialisation équitable. Cette année, le monde a besoin que les jeunes continuent à se faire entendre, continuer de voir grand, continuer de repousser les limites et ne lâcher rien. Je vous souhaite une année 2020 faite de paix et de bonheur. Et je vous remercie.
En 2019, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Forst, a présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies son dernier rapport, dans lequel il a notamment souligné le problème de l'impunité dont bénéficient ceux qui portent atteinte aux défenseurs des droits de l'homme, ainsi que les difficultés rencontrées pour y mettre un terme. Pascal Sim a profité de son passage à New York pour le recevoir dans nos studios.
Malheureusement, c'est une tendance que j'ai constatée dans mes visites officielles à l'invitation des États, mais également dans un grand nombre de visites non officielles à l'invitation d'ambassades ou d'organisations gouvernementales. Et le principal message que j'entends de la part des organisations de la société civile et des défenseurs, c'est que malheureusement, quand ils sont l'objet d'attaques, de menaces, ou parfois pires, et qu'ils vont à la police ou qu'ils vont devant la justice, ils sont soit pas entendus, soit rejetés, soit leur dossier est enterré. Et donc on a le sentiment qu'à l'heure actuelle, l'impunité prévaut, y compris pour les crimes les plus graves. Alors évidemment, on a en tête des noms un peu fameux comme Khashoggi en Turquie, le journaliste assassiné, ou des noms comme Marielle Franco au Brésil, bien connu, ou la journaliste à Malte qui a été également assassinée, pour lesquels on n'a pas de résultats, mais ils sont des milliers, des dizaines de milliers dans le monde à attendre la justice. Et ce rapport a été largement inspiré par leur voix, avec l'idée que mon mandat, qui est un mandat de coopération avec les États, pourrait proposer des solutions et des pistes novatrices. Et c'est la raison pour laquelle dans ce rapport, on trouvera non seulement un état de la situation dans le monde, mais également un grand nombre de recommandations, y compris un ensemble de 6 principes qui sont là pour guider un travail futur de recherche sur la question de la lutte contre l'impunité.
Vous avez cité des exemples de meurtres, d'assassinats. Est-ce que les abus commis à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme se limitent à ces assassinats ?
Non, bien sûr, la situation des défenseurs est dans le monde de plus en plus préoccupante. Ils sont d'abord l'objet de campagnes de diffamation massives, y compris dans les pays européens, malheureusement, d'hommes politiques, de parlementaires, parfois à un haut niveau, qui les accusent d'être liés au terrorisme, ou d'être contre leur pays, ou d'être anti-développement, ou anti-progrès. Et ces campagnes de diffamation se traduisent ensuite par des actes plus graves, des arrestations arbitraires, des détentions de longue durée, et puis évidemment toute la cohorte de différentes méthodes utilisées par les régimes les plus répressifs pour bâillonner les défenseurs. Ce qui m'a frappé néanmoins dans le paysage du monde sur les défenseurs, c'est que les principaux acteurs ne sont pas que les gouvernements. Et c'est une chose qui est un peu nouvelle, c'est que de plus en plus d'acteurs non étatiques apparaissent. On a bien évidemment les mafias, le crime organisé, les cartels de la drogue dans beaucoup de pays d'Amérique latine, Amérique centrale, aux Philippines, mais aussi les entreprises internationales qui ne reconnaissent pas leur responsabilité de protéger et leur responsabilité de mener un travail d'investigation quand ils sont avertis que leur compagnie commet également des atteintes graves aux droits humains.
Parmi les obstacles que vous avez relevés, vous notez surtout une absence de volonté politique des États. Comment expliquez-vous le fait que des gouvernements qui sont rassemblés dans le cadre de cette Assemblée générale n'agissent pas ?
C'est effectivement un constat qu'il y a un manque de volonté politique de la part des États, qui s'explique de plusieurs manières. Il y a d'abord une absence de volonté politique institutionnelle dans les pays dans lesquels l'État de droit n'est pas à la hauteur des attentes. Donc le système judiciaire n'est pas suffisamment sophistiqué pour permettre d'aller plus loin dans la lutte contre l'impunité. Mais parfois, ce sont de vrais blocages institutionnels qui montrent une vraie absence de volonté politique, notamment quand les crimes sont à l'instigation, ou en tout cas sont inspirés par ce qu'on appelle les puissants. Les puissants qui sont les entreprises internationales, mais aussi une collusion souvent avec des acteurs politiques, des ministres, des hommes politiques, des parlementaires. Et cette collusion fait que, bien évidemment, les systèmes judiciaires sont peu enclins à mener des enquêtes allant jusqu'au bout. Et souvent, on arrête les assassins, donc les meurtriers. Dans le cas de Marielle Franco au Brésil, en Arabie Saoudite, on a arrêté ceux qui étaient directement responsables de la mort de Khashoggi, mais ce qu'on appelle en anglais les masterminds, donc les auteurs intellectuels de ces attaques, c'est-à-dire les puissants, ceux qui ont commandité les actes, sont rarement inquiétés. Et cette absence de volonté politique se traduit par le fait qu'effectivement, dès lors qu'on parle aux puissants, dès lors qu'on met en cause les puissants, alors il y a une tentative pour eux d'essayer de bloquer le système judiciaire.
Le principe cardinal du travail d'un rapporteur spécial des Nations Unies, c'est son indépendance. De nombreux rapporteurs spéciaux ont été pris à partie, publiquement, par des États membres, mais aussi par d'autres acteurs. Quel est votre message au grand public qui ne connaît pas bien le travail de rapporteur spécial et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'être indépendant dans le système des Nations Unies ?
Alors d'abord parce que le système des Nations Unies est un système interétatique, un système intergouvernemental. Et par contre, ce sont les États qui se parlent entre eux. Et la mission qui nous a été confiée par le Conseil des droits de l'homme, c'est d'être ce qu'on dit les yeux et les oreilles du Conseil. Des experts indépendants qui ne sont pas payés par les Nations Unies et qui par conséquent ont la possibilité de dire la vérité à tous, y compris aux Nations Unies. Et parfois nous sommes sévères vis-à-vis du système des Nations Unies. Je rappelle le récent rapport d'Inès Calamar, la rapporteure spéciale sur les exécutions sommaires et arbitraires, qui dans le rapport sur le meurtre de Khashoggi dans le consulat en Turquie, a aussi mis en cause, au fond, le secrétaire général des Nations Unies en disant que peut-être il aurait dû ou il pourrait encore mettre en place une commission ad hoc d'enquête pour enquêter sur le crime de Khashoggi.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page Internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.